Il y a 150 ans, la Commune de Paris. Louise Michel nous la raconte aujourd'hui. 48e épisode. Mourir s'il le faut, mais dire la vérité.
Le 30 novembre, deux jours après les assassinats de Satory, à Marseille, Gaston Crémieux fut conduit dans la plaine qui borde la mer et qu'on appelle le Faro. Déjà, on y avait fusillé un soldat nommé Paqui, passé dans les rangs populaires. Crémieux commanda lui-même le feu, il voulut crier « Vive la République !» mais la moitié du mot seulement passa à ses lèvres. Les soldats, après chaque exécution, défilaient devant les corps. Au son des fanfares, ils le firent au Faro, comme ils l'avaient fait à Satory. Un peu plus tard, le père Étienne eut sa condamnation à mort commuée en déportation à perpétuité. Des registres étaient couverts de signatures à l'intention de Gaston Crémieux. Cette manifestation fit une impression de crainte au gouvernement. Se voyant désavoué par les consciences, il voulut en imposer par la terreur. Près d'un an après la Commune, le 22 février 72, à 7 heures, les poteaux de Satory furent de nouveau ensanglantés. Lagrange, Herpin Lacroix, Verdaguet, trois braves et vaillants défenseurs de la Commune, payèrent de leur vie, comme tant d'autres, la mort de deux généraux, Clément Thomas et Lecomte. Ces généraux, Herpin Lacroix, avaient voulu les sauver, eux qui avaient préparé eux-mêmes leur fatalité. Le 29 mars, c'est Préaux de Védel qui tombait. Le 30 avril, Janton, se traînant sur des béquilles à cause de ses blessures, mais fièrement debout au poteau. Le 25 mai, Cerisier, Bouin et Boudin, pour avoir, pendant les jours de mai, tué un individu qui s'opposait à la défense. Le 6 juillet, Baudouin et Rouillac, pour l'incendie de Saint-Éloi et la lutte devant les barricades. Arrivés au poteau, Baudouin et Rouillac brisèrent les cordes et luttèrent contre les soldats. Ils furent massacrés comme des bœufs à l'abattoir.
« C'est avec cela qu'ils pensaient !» dit l'officier qui commandait, en remuant du bout de la botte les cervelles répandues à terre.
Comme s'étant amoncelés les cadavres, on entassait les condamnations. Après le délire du sang, il y avait le délire des jugements. Versailles crut faire, avec la terreur, le silence éternel. Des écrivains furent condamnés à mort. Condamnés à mort pour des articles de journaux. Ainsi le camarade Marotto, condamné à mort pour des articles dans son journal La Montagne. La profession de foi de ce journal n'était que l'exact compte-rendu des faits. Marotto y disait ainsi en parlant de la rédaction. Quand ils sont à bout de mensonges et de calomnies, quand leur langue pend, pour se remettre, ils se trempent le nez dans l'écume du verre de sang de Mademoiselle de Sombreuil. Ils sortent de sa tombe le général Bréat, agitant le suaire du général Clément Thomas. « Assez ! Non, vous parlez de vos morts, mais comptez donc les nôtres. Compère Jules Favre, retrousse ta jupe pour ne pas la franger de rouge et entre, si tu l'oses, dans le charnier de la Révolution. Les tas sont gros. Voici Prairial et Thermidor, voici Saint-Méry, Transnonain, Ticotone. Que de dates infâmes, que de noms maudits. Et sans remonter si haut, sans fouiller la cendre des ans passés, qui donc a tué hier et qui tue encore aujourd'hui? Qui donc a enrôlé Charette et Failly? Qui donc a battu le rappel en Vendée, lancé sur Paris la Bretagne? Qui donc a mitraillé au vol un essaim de fillettes à Neuilly? Non, bandit! Mais aujourd'hui, c'est la victoire, non la bataille qui marche derrière le drapeau rouge. La ville entière est levée au son des trompettes. Nous allons, vautours, aller vous prendre dans votre nid, vous apporter tout clignotant à la lumière. La Commune vous met ce matin en accusation. Vous serez jugé et condamné. Il le faut. Heinrich, passe ton couperet sur la pierre noire. Oui, en fondant le journal La Montagne, j'ai fait le serment de Rousseau et d'Omara, c'est-à-dire mourir s'il le faut, mais dire la vérité. Je le répète, il faut que la tête de ces scélérats tombe, signé Gustave Marotteau. Qui donc s'est honoré qu'on se fût indigné des crimes de Versailles? Le numéro 19 du journal La Montagne, presque le dernier, ce journal, je crois, n'ayant eu qu'une vingtaine, causa le verdict de mort de Marotteau, qu'on osa cependant exécuter. Il fut commué aux travaux forcés à perpétuité. Il me reste de cet article et les passages incriminés. C'était après le refus de Versailles d'échanger Blanqui contre l'archevêque de Paris et plusieurs prêtres. Voici cet article. Monseigneur l'archevêque de Paris. En 1848, pendant la bataille de Juin, un prélat fut tué sur une barricade. C'était Monseigneur Affre, archevêque de Paris. Il était monté là, dit-on, sans parti pris, en apôtre, prêcher l'évangile, pour lever du bout de sa crosse d'or le canon fumant des fusils. Cette mort excusait pour elle les craintes de Cavaignac. On feignit de trouver dans les mains qui saignaient sous le fer du bagne des lambeaux de robe violette. C'était faux. On ignore encore aujourd'hui de quel côté vint le coup. On ne sait pas si la balle partait du fusil d'un soldat ou de la canardière d'un insurgé. Les républicains baissèrent la tête comme des maudits sous cette aspersion de sang béni. L'instruction nous a rendus sceptiques. C'est fini. Nous ne croyons plus à Dieu. La révolution de 71 est athée. Notre République a un bouquet d'immortels au corsage. Notre grand acte de travail proscrit les paresseux et les parasites. Partez, jetez vos frocs aux orties, retrouffez vos manches, prenez l'aiguillon, poussez la charrue, chantez aux bœufs et mieux que des psaumes. Et ne me parlez pas de Dieu. Le croque-mitaine ne nous effraie plus. Il y a trop longtemps qu'il n'est plus que prétexte à pillage et assassinat. C'est au nom de Dieu que Guillaume a bu à plein casque le plus pur de notre sang. Ce sont les soldats du pape qui bombardent l'éterne. Nous biffons Dieu. Les chiens ne vont plus se contenter de regarder les évêques, non, ils les mordront. Nos balles ne s'aplatiront pas sur les scapulaires. Pas une voix ne s'élèvera pour nous maudire le jour où l'on fusillera l'archevêque d'Arbois. Nous avons pris d'Arbois comme otage, et si on ne nous rend pas Blanqui, il mourra. La commune l'a promis. Si elle hésitait, le peuple tiendrait le serment pour elle et ne l'accusait pas. Que la justice des tribunaux commence, disait Danton, au lendemain des massacres de septembre, et celle du peuple, celle sera. Et j'ai bien peur pour Monseigneur l'archevêque de Paris. Signé Gustave Marotteau dans le journal La Montagne. Marotteau avait écrit au premier numéro de son journal La Montagne ceci. J'ai fait le serment de Rousseau et de Marat. Mourir s'il le faut, mais dire la vérité. Cette vérité était qu'il était impossible, dans les circonstances horribles créées par Versailles, d'écrire comme d'agir autrement. Il est étrange qu'à l'instant où je citais les paroles de Rousseau, dont Marotteau s'était fait une loi, on ouvrait les cercueils de Rousseau et de Voltaire pour s'assurer si leurs dépouilles aujourd'hui vénérées y gîtent encore. Oui, elles y sont. La tête de Voltaire nous rit au nez de son rire incisif pour avoir avancé si peu. Le squelette de Rousseau, calme, se croise les bras. Marotteau fut condamné surtout pour avoir dit la vérité. Mais pour lui, comme pour Civotte 20 ans après, on osa exécuter la sentence, commuée aux travaux forcés à perpétuité. Il fut envoyé au bagne de l'île Nou. Marotteau, malade de la poitrine avant son départ, mourut le 18 mars 1875, à l'âge, je crois, de 27 ans. Il avait une maladie de poitrine qu'il traînait depuis près de 6 ans. Mais la fin était venue, On attendait sa mort dès le 16 mars, l'agonie étant commencée. Tout à coup, Maroto se soulève et s'adressant au médecin. « La science ne peut donc pas me faire vivre jusqu'à mon anniversaire, le 18 mars ?»« Vous vivrez !» dit le médecin qui ne put cacher une larme. Et Maroto, en effet, mourut le 18 mars. Longtemps, ses yeux parurent vivants, regardant au fond de l'ombre venir la justice populaire. Alphonse Imbert fut également condamné aux travaux forcés à perpétuité pour des articles de journaux. On prétendit que le numéro du père Duchesne, du 5 avril 1871, avait provoqué l'arrestation de Chaudet, dont il n'est pas même parlé dans les passages incriminés. En voici quelques fragments. C'est la première fois que le père Duchesne fait un post-scriptum à ses articles bougrement patriotes. C'est aussi que jamais le père Duchesne n'aura été si joyeux. Ah oui, nom de nom. Comme les affaires de la vie sociale vont bien, comme les gens foutres de Versailles sont foutus plus que jamais. Enfin, tous les vœux du journal Père Duchesne sont comblés. Il peut dès à présent mourir. Les battements de son cœur auront, pour la troisième fois, en moins d'un 15 jours, salué la révolution sociale triomphante. Et savez-vous pourquoi le père Duchesne est si content, bien qu'il ait eu aujourd'hui une centaine de bons bougres de ses amis tués? C'est que, malgré toutes les excitations des mauvais gens en foutre, nous avons été attaqués les premiers par les hommes de Versailles. Ce sont eux, j'en appelle à la juste histoire de l'an 79 de la République française, ce sont eux qui ont ouvert la guerre civile. Il y a, il est vrai, des patriotes qui sont morts pour le salut de la nation. Gloire à eux, et la nation est sauvée. Et l'honneur de la race future est sauf. Comme le nôtre, nous baiserons vos plaies aux patriotes qui êtes morts pour la nation et pour la révolution sociale. Et nous nous souviendrons que la couleur du drapeau rouge a été rajeunie de votre sang. Rochefort, lui, fut condamné à la déportation dans une enceinte fortifiée, aussi pour des articles de journaux, mais surtout pour la part immense qu'il avait eue à la chute de l'Empire. Les articles parus après les premiers bombardements dans son journal Le Mot d'Ordre avaient exaspéré Versailles. Le journal Le Mot d'Ordre a été supprimé par le fuyard Vinois, aujourd'hui grand crachat de la Légion d'honneur, sous prétexte que mes collaborateurs et moi prêchions la guerre civile. Mais la guerre du fort nous apprend que désormais, les journaux sont punis quand ils prêcheront la conciliation. Les misérables écrivains qui trouveront mauvais que les femmes soient renversées par des obus dans les avenues qu'elles traversent pour aller faire leurs provisions et qui proposeront un moyen quelconque, fût-il excellent, de faire cesser les hostilités sont dès aujourd'hui assimilés par le ministre de la Justice versaillaise aux criminels les plus endurcis. Vous êtes parti pour Versailles, mais votre père est resté à Paris le jour où vous apprenez qu'une bombe venue du Mont Valérien a pénétré dans sa chambre et l'a coupé en deux dans son lit. Vous devez demander à grands cris la continuation de la guerre civile sous peine d'être considéré par l'honnête du fort comme un ennemi de la propriété et même de la famille. Nous l'avons remarqué souvent, il n'y a que les modérés pour être impitoyables. Si encore ils n'étaient que féroces, mais ils sont stupides, c'est du reste ce qui nous sauve. Pas un des soi-disant ministres qui ont assisté à l'élaboration du manifeste qui fait aujourd'hui la joie de tous les amis de la franche gaieté, n'a songé que la province à qui il est adressé allait s'écrier comme un seul département. Comment ? Un mois qu'ils éventrent Paris. Voilà qu'ils trouent les monuments publics et les propriétés privées. Et si par hasard, quelqu'un avait l'idée de leur faire observer qu'en voilà peut-être assez, ils déclarent d'avance que ce criminel sera puni selon la rigueur des lois. Ce ministère-là a donc été recruté dans les cages du Jardin des Plantes. Dans son journal, Henri Rochefort avait l'art d'allumer les colères de Versailles.
C'était le 48e épisode des Mémoires de la Commune de Louise Michel. Demain, la mauvaise foi de Versailles et les colères de Rochefort. À demain.